Donc voilà, comme il disait, moi c'est Baptiste Austré, donc je suis directeur de publication du magazine Clutch. Donc on est venu ensemble, même si comme je disais, c'est moi qui prends la parole, parce que par mes fonctions, j'ai un travail un peu de coordination sur le travail de chacun. Alors je dois avouer, j'ai pas trop l'habitude d'être de ce côté de la barrière, hein. J'ai plus l'habitude de poser les questions plutôt que d'y répondre, et en plus j'ai plus l'habitude de l'écriture plutôt que de l'oral. Mais ça va bien se passer. Par contre, il y a une question à laquelle on commence tous à s'habituer un peu à répondre, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent depuis maintenant 4 ans et quelques mois que le magazine existe. C'est la question toute simple, mais qu'est-ce que ça veut dire clutch? Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout départ, quand on cherchait le nom du magazine, en fait, on est tombé sur ce mot, et le mot nous a plu instantanément, vraiment pour sa sonorité. C'est quelque chose qui claquait bien sous la langue, on va dire, et qui en plus autorisait quelques petits jeux de mots et détournements de langage qui étaient assez marrants à faire. Bon, après, on a quand même fait un minimum de notre travail, hein, on est allé chercher quand même ce que ça voulait dire. Et on a découvert donc que c'était un mot anglais, dont une des définitions, parce qu'en plus il y en a plusieurs, une des définitions c'était embrayage. Alors embrayage, ça peut paraître un peu bizarre, un terme de mécanique pour un magazine culturel, mais en fait c'est un mot qui a eu tout de suite de la signification pour nous, au moment où on a lancé la création du magazine. C'est un mot qui ensuite avait une autre signification, parce que c'est l'objectif du magazine, être un transmetteur d'informations. Jusque-là, tout va bien. Et c'est un mot qui continue d'en avoir encore aujourd'hui, parce qu'à côté du magazine, il y a d'autres petits projets qui sont montés au fur et à mesure. Alors, au tout départ, pour revenir sur la genèse, on est en mai 2012, quelque chose comme ça, et on est sans emploi. À l'époque, on travaillait pour un autre média de Toulouse, qui a lancé une vague de licenciements économiques. Et donc on s'est retrouvé là que tout simplement à la croisée des chemins avec un choix à faire, soit gentiment pointer à Pôle Emploi et croiser les doigts pour espérer retrouver un job qui dans lequel on puisse s'épanouir, soit tout simplement se lancer à l'aventure, faire le grand pas quoi. Donc le choix a été vite vu en ce qui nous concerne. C'est le premier magazine derrière est sorti en septembre 2012, donc en l'espace de quelques mois seulement. Et conjointement à la décision de monter le magazine, il a fallu choisir la forme qu'allait prendre la société pour ça, et on s'est tourné en fait vers un format coopératif, donc une SCOP, plutôt qu'une SARL ou une association, parce que dès le départ, ça a été un projet collectif. On a monté ça tous ensemble et chacun a apporté ses idées. Donc on voulait pas une hiérarchie pyramidale, comme on retrouve de manière, dans la plupart des sociétés. On voulait avoir une hiérarchie horizontale qui puisse permettre à chacun d'avoir la responsabilité de sa tâche, de son poste, tout en permettant, on va dire, ce que nous, on le voit comme ça, ce qu'on appelle chez nous de l'interdépendance. C'est-à-dire que même si chacun a ses responsabilités, on n'est pas enfermé dans une case, on n'est pas enfermé dans un poste, et on est obligé de travailler main dans la main avec tous nos autres collègues et tous les autres domaines qui sont touchés par le magazine et importants pour l'existence du magazine, tout simplement. Tout ça, donc, ça permet, en fait, le Formascope a permis d'officialiser, on va dire, un fonctionnement qui s'est fait à la base très naturellement, justement, de travail comme ça, collaboratif. Et une des vertus, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, une des vertus, je dirais, de ce fonctionnement-là, c'est que ça nous permet à chacun de pouvoir appréhender des métiers qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne connaît pas bien forcément. Moi, je suis pas du tout commercial, je suis vraiment très très mauvais là-dedans. Graphiste, encore moins, j'ai jamais touché un logiciel de montage. Mais du coup, de pouvoir avoir cette alchimie-là, ça me permet, moi, de pouvoir mieux appréhender le travail de mes collègues et donc de mieux savoir quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs prérogatives, leur timing, etc., pour pouvoir, du coup, avoir une organisation, quelque part, beaucoup plus fluide et beaucoup plus souple. Et ça, pour moi, ça se retrouve un peu derrière dans le magazine lui-même, le magazine papier, ce qui peut paraître un peu bizarre de nos jours de monter un magazine papier. Moi, ça a été un des premiers, des premières réflexions que j'ai eues à l'époque quand j'ai commencé mes études de journalisme. On m'a dit le papier aujourd'hui c'est mort. Et maintenant, c'est le web. Alors certes, le web a changé beaucoup de choses dans la façon dont on appréhende l'information, mais c'est pas pour autant, enfin on considère en tout cas que c'est pas pour autant que le papier va disparaître ou doit disparaître. C'est simplement qu'il y a un changement de paradigme dans la façon dont on va chercher l'information. Bah, tout simplement parce qu'on ne va plus chercher l'information. Aujourd'hui, c'est l'information qui vient à nous. Sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, les mobiles, tout vient à nous. Donc aujourd'hui, c'est plus à moi, lecteur, d'aller chercher, de faire la démarche pour aller chercher un magazine, c'est le magazine qui doit venir à moi. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on a eue quand même quand on a monté aussi le magazine, c'est de se dire comment faire en sorte que ce soit un magazine que les gens aient envie de prendre. Bah déjà, tout simplement, au départ, c'était de faire un magazine qui nous plairait, nous aussi, à lire. Ça peut paraître bête, mais bon, c'est toujours mieux de commencer comme ça. Et ensuite, c'était d'essayer de mettre en place des petites choses qui puissent attirer, enfin avoir quelque chose d'attractif. Le tout premier, c'est évidemment la couverture du magazine, où chaque mois, la couverture est à l'intérieur, dans les pages du portfolio. On a généralement une dizaine de pages tous les mois qui sont consacrées en fait à un artiste local ou de la région. C'est une manière aussi de mettre en avant la proximité, c'est une manière aussi de mettre en avant le vivier artistique toulousain. C'est vrai qu'on a eu beaucoup, depuis le début qu'on fait le magazine, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « putain, on n'aurait jamais pensé... » Pardon pour le putain. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait autant d'artistes à Toulouse. Et bah nous, ça fait 4 ans qu'on met en avant des artistes toulousains et on a encore un beau paquet de prévus pour les prochains mois, en tout cas. Donc, il y a eu ça. On a du coup des gens qui prennent le magazine et qui, des fois, même arrachent les couvertures ou les pages intérieures pour les mettre sur leur frigo. Il y en a même qui font des tables avec. et donc, ça a été un premier point. Le deuxième point, c'était d'essayer de jouer sur ce côté un peu... de créer un peu une sorte de collection, tout simplement, comme vous voyez, avec la tranche ici, qui dessine petit à petit un visuel, qui est toujours sympa à avoir. C'était aussi, dans les pages intérieures, on fait un magazine qui est donc mensuel, qui parle des événements qui ont lieu chaque mois, dans, on va dire, une pluridisciplinarité artistique. Mais l'idée, c'était que les gens aient envie de garder le magazine et pas le jeter une fois que le mois est fini. Donc pour ça, on fait depuis le début, tout simplement, des dossiers en ouverture du magazine qui sont sur des problématiques culturelles, locales, toujours, mais sur de l'actualité qui peut être ce qu'on appelle de l'actualité froide, on va dire, qui n'est pas forcément restreinte par une date de parution ou quelque chose comme ça. Petit à petit, derrière, on a affiné tout ça et on a commencé à avoir des numéros pratiquement thématiques avec des sujets qui se recoupaient comme un fil rouge sur l'ensemble du magazine. On a fait un numéro, par exemple, sur le steampunk, où on avait du steampunk à toutes les sauces, sur toutes les rubriques. Un numéro sur le jeune public également. Là, en ce mois de novembre, on a un numéro qui part sur les créateurs locaux et qui nous permet du coup de dévier derrière sur l'ensemble du magazine sur les coulisses de la création et donc de mettre en avant toutes ces les événements du mois qui justement ont cette option-là qui permet de découvrir un peu l'envers du décor. Que je me perde pas. donc il y a eu ça. Donc tout ça, ça permet du coup d'avoir cet aspect un peu collector, on va dire. Et en même temps, l'idée, c'était aussi d'être ouvert à un maximum de disciplines artistiques, de pas s'enfermer dans un style ou un genre, parce que nous-mêmes, on a des goûts très différents. Et comme je disais, c'est collaboratif, donc on discute beaucoup sur tout ce qu'on fait, sur toute la vie du magazine. Et du coup, on brasse assez large. On a de l'art visuel, de la musique, du cinéma, de la littérature, du spectacle vivant. Et à l'intérieur même de ces rubriques, on essaie d'être ouvert à un maximum de choses. Que je me perds encore. Je vais boire un petit peu. Donc, le magazine, voilà, s'est lancé comme ça. Et cette pluridisciplinarité, c'est quelque chose qu'on a voulu avoir également au-delà du magazine. C'est-à-dire que le magazine, c'est un peu le cœur d'une mécanique qui regroupe plein d'autres petites choses. Notamment, on a des soirées qu'on appelle les soirées Clutcherama, qui sont les soirées de sortie du magazine, qu'on fait une fois par mois, qui nous permettent, on va dire, de passer dans le réel, quelque part, d'être au contact direct aussi avec nos lecteurs. C'est toujours ce même souci d'aller chercher nos lecteurs et de connaître nos lecteurs. Et c'est des soirées qui, en plus, dans lesquelles on met en avant des lieux, des artistes, des programmations. Les artistes qu'on a sur les portfolios, on leur propose de venir sur le lieu même, de faire leur exposition avec un vernissage. Ça leur permet aussi de rencontrer du public. Ça permet de mettre en avant des associations de Toulouse, toujours de mettre en avant ce vivier artistique au sens le plus large possible, en tout cas on essaie, du terme. Je vais prendre mon anti-sèche, je suis désolé. À côté de ça, donc en plus des soirées, on a aussi une émission de radio en partenariat avec Campus FM qui passe tous les jours, où on regroupe un peu les événements de la journée. On a évidemment le site web, on a les réseaux sociaux et on a également un projet éditorial qui a été abouti une première fois en 2015. C'est un livre qui recense les artistes des deux premières années du magazine, qui devrait connaître prochainement une nouvelle déclinaison, un deuxième tome. Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais ça, je peux pas vous en dire plus, parce que on est encore en train de travailler dessus. Et ça fait beaucoup de choses. Enfin, ça peut faire beaucoup de choses, surtout pour une petite équipe comme la nôtre. Vous avez tout le monde, les forces vives sont toutes ici. Ça fait beaucoup de choses, c'est sûr. Mais faut dire que, au tout départ, quand on a monté un magazine, on avait une date de sortie, on avait de la rédaction qui était en cours, on avait de la mise en page qui était en train de se faire, de la publicité qui est rentrée, on avait la soirée de sortie qui était prête, calée, il n'y avait plus qu'à, mais on n'avait pas d'imprimeur, et on avait encore moins de moyens pour le payer. Mais des gens nous ont fait confiance. Ça nous a permis de sortir ce premier numéro, qui a permis de sortir un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on est au 46e numéro du magazine. Tout ça sans jamais avoir fait de levée de fonds, ni avoir pris de crédit, et en fonctionnant uniquement sur des fonds propres. C'est une fragilité économique, mais qui, quelque part, devient un peu notre force. Enfin, mais même pas qu'un peu, c'est devenu notre force, parce que ça nous oblige à aller de l'avant. Ça nous oblige à tenter des choses et à pousser pour pouvoir avancer. En quelque sorte, c'est notre moteur. On revient encore sur cette histoire d'embrayage. Alors, je crois que c'est un peu plus court que ce qui était prévu. Mais je dois dire, à un niveau vraiment personnel, à l'époque, je me serais jamais vu là où je suis aujourd'hui. Je me serais jamais vu me lancer dans l'aventure d'une entreprise, de retrouver à la tête, même si pas tout seul, mais à la tête d'une entreprise. Moi, tout ce que je voulais, c'était écrire. Mais ça a été d'une part un concours de circonstances. Et moi qui ne suis pas du tout, mais alors vraiment pas amateur de sensations fortes, en plus j'ai le vertige, je me verrais jamais faire par exemple du saut à l'élastique, mais avec cette aventure, avec ce magazine, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est d'avoir fait un grand saut dans le vide Et ça fait du bien.
Merci.